Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 3 juin 2017. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. C'est sur Twitter et auditrice, ce soir le programme commencera par le journal, suivi la revue de presse. Aujourd'hui, dans l'histoire, la mise au point. Et puis, on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis, on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission de la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Bon, alors, ses amis, voici le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs, voici le journal aujourd'hui. Un titre, le ministère de l'Éducation et de la Culture tient à l'exposition des archives Pancasila. Le ministère et le vice-ministre des Affaires étrangères visitent l'Afrique. Voici le bulletin complet. Le ministère de l'Éducation et de la Culture, par l'intermédiaire de la Direction générale de la Culture, organise une exposition d'archives Pancasila. Pour commémorer l'anniversaire de Pancasila le 1er juin, le ministère tient cette exposition du 2 au 15 juin 2017 au Musée national de Jakarta Central. Cette exposition est une collaboration entre la Direction général de la Culture, les Archives nationales d'Indonésie, la Bibliothèque nationale. Le directeur général de la Culture, Hilmar Farid, a déclaré qu'il était très important pour les gens d'étudier l'anniversaire de Pancasila comme base philosophique de la République d'Indonésie. Cette exposition peut être un effort pour inculquer les valeurs de Pancasila. Il est temps de publier les collections de ces documents pour par n'importe qui en tout temps. Nous nous attendons à ce que la participation du public rende ces questions plus intéressantes. Hilmar Farid a expliqué que l'exposition avait été ouverte par le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, vendredi le 2 juin 2017. Lors de la cérémonie d'ouverture, le discours de Sukarno est lu et le film Pancasila, les idéaux et la réalité est projeté. Les archives présentées sont entre autres les livres de Sutasoma, les documents sur la préparation de la réunion de l'agence pour les travaux préparatoires pour l'indépendance de l'Indonésie, le texte de discours de Sukarno sur Pancasila, la rédaction de la Constitution de 1945 et les autres archives importantes liées à l'anniversaire de Pancasila. Le gouvernement indonésien continuera à s'engager à renforcer la coopération avec d'autres pays africains. À cet égard, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le vice-ministre M. Fahir visitent plusieurs pays africains à partir du 3 au 10 juin 2017. La ministre Retno se rend au Nigeria du 3 au 6 juin, tandis que le vice-ministre Aïm Fahir va se rendre au Sénégal et au Kenya du 7 au 10 juin. Le porte-parole Armanata Nasir vendredi à Jakarta a déclaré que les deux visites dans les trois pays africains faisait partie de l'engagement de l'Indonésie à améliorer les relations de coopération avec les pays africains. Après que la ministre Ratna ait visité l'Afrique du Sud et le Mozambique au début de cette année. Armanata a expliqué que les pays du continent africain ont un potentiel élevé qui n'a pas encore été utilisé pour accroître la coopération avec l'Indonésie.
Kunjungan ini sebenarnya menunjukkan kembali bahwa komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan.
Cette visite concerne en fait l'engagement de l'Indonésie à accroître la coopération avec les pays africains, comme ce que Madame ministre a déterminé au début de cette année. L'une des questions à discuter est de renforcer notre coopération en considérant le grand potentiel de l'Afrique qui n'a pas encore été utilisé et l'Afrique comme un important marché non traditionnel pour l'Indonésie. Pendant ce temps, le directeur de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères, Daniel Simanjuntak, a déclaré que lors de sa visite au Nigeria, le ministre Retno Marsudi va participer à la réunion du Forum des Affaires et va signer des contrats de coopération entre les deux pays. En outre, le ministre Retno va également assister à une réunion bilatérale pour discuter des questions liées à l'amélioration de la coopération en matière de lutte contre l'huile de palme et des mesures de réduction tarifaire qui empêchent les produits indonésiens d'entrer sur le marché africain. Au cours des visites, la ministre et le vice-ministre seront accompagnés de plusieurs hommes d'affaires indonésiens. Le vice-président Yusuf Kala rencontrera le premier ministre japonais Shinzo Abe lundi le 5 juin pour discuter de l'engagement d'accroître les investissements japonais en Indonésie au cours de sa visite à Tokyo du 3 au 6 juin 2017. Le chef de l'équipe d'experts du vice-président Sofiane Wanandi a déclaré vendredi au bureau du vice-président que le vice-président Yusuf Kala assisterait à Tokyo pour répondre à l'invitation du Nikkei de Tokyo, une corporation des médias au Japon, pour être l'un des orateurs du 23e Forum international L'Avenir de l'Asie, le 5 et 6 juin 2017, selon Sofiane. Cette réunion était une visite de courtoisie au Premier ministre Shinzo Abe, mais Yusuf Kala soulevera également la coopération économique et d'investissement entre les deux pays. Il a ajouté le vice-président Yusuf Kala sera mis l'accent sur l'investissement manufacturier parce que ce secteur absorbe plus les mains d'œuvre indonésiens. En plus des investissements, Yusuf Kala soulevera également la question de l'éducation et la formation des travailleurs indonésiens, ainsi que l'amélioration du transfert de la technologie des entreprises japonaises en Indonésie. L'agence de cyber et de côte de l'État est officiellement formée après que le président Joko Widodo a signé le décret présidentiel numéro 53 en 2017. Le vice-président du Parlement, Fadli Zon, a déclaré que le Parlement soutient pleinement cette agence. Si la formation de l'agence cybernétique est le bon but. Toutefois, si le but de l'agence de cyber est de préserver le pouvoir, le Parlement refusera fermement. Par conséquent, on espère que l'agence de cyber peut bien exécuter par le gouvernement. Le dernier, le Centre d'innovation ASEAN-Chine sera créé à Bali pour soutenir le programme de coopération internationale de la route de la soie et de la nouvelle ceinture maritime One Belt, One Road. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Sugeng Raharjo, a expliqué vendredi à Pékin. Initialement, ce centre sera créé à Singapour ou en Malaisie. Mais il a insisté de créer ce centre en Bali parce qu'en accord avec l'esprit du président chinois Xi Jinping, qui a transmis le concept de One Road dans son discours devant les membres du Parlement à Senayan, Jakarta, en 2013. Auparavant, Xi Jinping a exprimé ses idées sur le One Belt à Astana, au Kazakhstan, à la même année. ASEAN, Chine l'ont convenu, si bien que cette agence est créée cette année à Bali. Il a souligné que la mise en place de cette agence à Bali fasse que cette région est déjà très bien connue dans le monde en tant que destination touristique populaire. Sugeng a ajouté « One Belt, One Road » est le concept de la connectivité dans la région et nécessite l'agence d'innovation à réaliser. En plus d'être l'un des plus grands pays en Asie du Sud-Est, L'Indonésie est considérée comme importante par la Chine pour développer conjointement l'infrastructure à travers le concept de One Belt, One Road. C'est ce détail de titre, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Média Indonésia le 31 mai et en titre « La révision pour des raisons de détection précoce ». Le Parlement qui est habitué d'être lent à discuter du projet de loi et le gouvernement étant trop paresseux d'encourager l'accélération urgente de la discussion est un phénomène courant dans ce pays. L'inaction n'est pas fatale, mais elle peut être fatale si elle était retardée à reporter son examen de la législation est très stratégique et a un impact très large. C'est ce qui se passe actuellement avec la discussion de la révision de la loi numéro 15 de 2003 sur l'élimination du terrorisme, soit loi antiterroriste. La loi étant établie en 2002-2003, en se référant au modèle de mouvement terroriste à l'époque, n'est plus pertinente lorsqu'ils sont confrontés à la réalité d'aujourd'hui. Par conséquent, depuis longtemps, beaucoup de gens ont exhorté la loi d'être révisée en prévision d'augmentation de la croissance de la criminalité transnationale sous la forme du terrorisme. Ce pays a besoin d'un cadre juridique plus solide, mais aussi souple, pour prévenir et réprimer le terrorisme. Cependant, cet intérêt urgent n'est pas également pris au sérieux par le Parlement. Si elle n'a pas aussi rempli, le public va douter certainement des engagements et des alignements du Parlement dans un effort pour lutter contre le terrorisme. Selon Média Indonésia, la discussion du projet de loi antiterroriste devrait être accélérée. Le cœur de la réforme de la loi antiterroriste devrait être dans l'esprit de renforcer la police nationale à prendre rapidement des mesures préventives. Le dernier, l'éditorial du journal Republika, le 31 mai, est en titre « Maintenir les prix de la viande ». Comme les années précédentes, l'augmentation des prix de la viande ne peut pas être évitée dans le mois Ramadan. L'augmentation des prix de la viande a commencé à se faire sentir dans certains secteurs de la société. Ils achètent de la viande sur les marchés traditionnels avec un prix qui est supérieur au prix avant le mois de Ramadan. L'augmentation des prix de la viande devrait atteindre un pic quelques jours avant l'Aïd, bien que le ministère du Commerce affirme qu'il n'y a pas d'augmentation du prix de la viande dans certaines régions. Le fait que les fluctuations des prix de la viande est plus petite, mais reste encore inévitable. Les données du ministère du Commerce indiquant le bouillon de la viande à la fois local et importé, est très insuffisant et incapable de résister les prix qui ont augmenté à la semaine dernière. Toutes les parties espèrent que la promesse du gouvernement de sévir contre les prix de la viande autant que possible à réaliser cette année. D'autre part, selon Republika, le gouvernement devrait organiser une bonne distribution, que l'existence de stocks suffisants de viande peut vraiment être appréciée par le public. Une bonne distribution correcte sera en mesure de maintenir le prix entre la demande et l'équilibre de l'offre. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Ces auditeurs, on écoute quelques événements historiques importants de quelques pays de 3 juin, entre autres 3 juin 1943, bataille de l'Ouest de Hubei, seconde guerre sino-japonaise. Et puis 3 juin 1947, l'unification des munitions indonésiennes a devenu l'armée nationale indonésienne par le président Sukarno. Et 3 juin 1989, le printemps de Pékin réprimé dans le sang. On va commencer le 3 juin 1943, bataille de l'Ouest de Hubei, seconde guerre sino-japonaise. La seconde guerre sino-japonaise a opposé dès 1939 l'Empire du Japon aux volontés expansionnistes à la République de Chine. Le Kuomintang, nom de gouvernement communiste chinois, s'est engagé aux côtés des Alliés en 1941. Les batailles de l'Ouest de Hubei, le 3 juin 1943, fut l'une des victoires chinoises les plus stratégiques, en apparence du moins. En effet, selon l'historienne Barbara Tuchman, il ne s'agissait là que d'une attaque d'entraînement pour les Japonais. Cette guerre durera jusqu'à la reddition du Japon en 1945. On continue le 3 juin 1947, l'unification des militias indonésiennes a devenu l'armée nationale indonésienne par le président Sukarno. L'État de l'Indonésie au début de l'établissement n'a pas l'unité de l'armée. L'agence de sécurité populaire qui a été formée le 23 août 1945 n'est pas une organisation militaire officielle. L'agence de sécurité populaire par l'avis du gouvernement en date du 5 avril 1945 a été changée en sécurité de l'armée populaire. L'armée sécurité populaire est baptisée l'armée du salut du peuple, puis changée à l'armée de la République d'Indonésie. Parce qu'elle était en Indonésie, il y a des lignes d'armée d'autres que l'armée de la République d'Indonésie. Le 5 mai 1947, le président Sukarno a rendu une décision d'unir l'armée de la République d'Indonésie dans le rang des armées dans l'armée nationale indonésienne. L'unification a été inaugurée le 3 juin 1947. On change le 3 juin 1989, le printemps de Pékin, réprimé dans le sang. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, place Tiananmen à Pékin, les autorités chinoises répriment dans le sang le vaste mouvement populaire en faveur de la démocratie. Depuis un mois, des étudiants et des ouvriers sont investis la place Tiananmen pour demander un changement politique. Le premier ministre Li Peng décrète alors la loi martiale et d'envoyer l'armée sur la capitale. Des centaines de manifestants seront écrasés par les chars ou abattus. On termine le 3 juin 2006 et l'indépendance du Monténégro. Suite au référendum de mai où 50,5% des voix étaient favorables, l'indépendance du Monténégro est proclamée. Depuis 2002, le Monténégro appartenait à l'État de la Serbie et Monténégro, lequel était issu de la République fédérale de Yougoslavie. À la fin du mois de juin, le Monténégro a intégré à l'ONU. Ses auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui ce soir de l'édition 3 jours.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. Megawati invite le monde à appliquer Pancasila. L'ancienne présidente d'Indonésie, Megawati Soekarnoputri, est invitée par le gouvernement sud-coréen d'assister à Jeju Forum for Peace and Prosperity. Un certain nombre de dirigeants du monde et les anciens chefs d'État ainsi que les délégués de 70 pays viennent avec l'idée de la paix en cas de Jeju Forum for la paix et la prospérité en 2017 qui a eu lieu à Jeju, en Corée Sud. Les participants comprenaient des politiciens, des bureaucrates, des diplomates, des universitaires, des entrepreneurs et des journalistes ainsi que des représentants d'organismes internationaux. Certains dirigeants du monde deviennent conférenciers d'honneur au forum, proéminents entre autres l'ancien vice-président américain Al Gore, l'ancien président portugais Aníbal Cavaco Silva et le cinquième président de la République d'Indonésie, Megawati Soekarnoputri. La réunion s'est déroulée du 31 mai au 2 juin. Megawati a demandé au niveau international, en particulier en Asie, pour mettre en œuvre les valeurs contenues dans Pancasila. Selon elle, Pancasila étant la base de l'État indonésien peut également être utilisé pour résoudre les problèmes dans le monde. Elle a dit que Pancasila pourrait être une ligne directrice pour l'Asie de réaliser la justice sociale et le bien-être. Selon Megawati, Pancasila est un guide spirituel, politique, économique et autres. Pancasila peut être mis en œuvre au niveau international pour trouver des solutions de la vie ensemble. Megawati était sûre, personne ne veut pas transférer le conflit à la jeune génération. Pancasila pourrait donc servir de ligne directrice pour la paix. Lors de son séjour en Corée Sud, Megawati a rencontré le président de la Corée Sud, Moon Jae-in, qui a spécifiquement demandé Megawati pour combler le processus de réunification des deux Corées. Megawati Soekarnoputri a aussi inauguré un jardin botanique à Seigepo, au milieu de l'île Jeju, nommé Megawati Soekarnoputri Jongwon, soit le jardin Megawati Soekarnoputri. Dans son discours, Megawati a admis avoir honoré par la nomination de ce jardin botanique. Elle occupe actuellement le président de la Fondation de Jardins Botaniques d'Indonésie. En marge du Forum Jeju pour la paix et la prospérité en 2017, Megawati a également rencontré le 45e vice-président américain Al Gore et après la réunion, Megawati a déclaré aux journalistes qu'ils ont discuté des conditions alarmantes en raison du réchauffement climatique, la fonte des glaces au pôle Nord, pôle Sud et l'Islande. Chers amis, c'était la mise au point. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Ce soir, nous vous en produisons le marché de l'après-midi de Ramadan à la ruelle Kauman, Yogyakarta. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Aujourd'hui est la première semaine du mois de jeûne des musulmans au mois Ramadan. D'habitude, au cours du mois Ramadan à Yogyakarta, il y a de nombreux marchés émergents qui offrent une variété d'aliments traditionnels. C'est le moment de la communauté pour préserver les types d'aliments traditionnels, en particulier de Yogyakarta, comme sego gudeg, mangut lele, pecel, kipo, bungkil, kicak, jadah mantan, et beaucoup d'autres. En plus de divers types de boissons qui peuvent être servies à un moment iftar. Chaque mois de Ramadan, il y a quelques marchés improvisés sont lancés. L'un d'eux est marché après-midi Ramadan Kauman à Yogyakarta. Le marché est situé dans une ruelle étroite Kauman. Ce gondomanan existait déjà depuis 1973. En brisant le jeûne, ce marché est toujours bondé de visiteurs qui viennent de l'intérieur et à l'extérieur de Yogyakarta. Le casse-croûte typique du marché de l'après-midi domine presque tous les commerçants. L'un de l'unicité du marché de l'après-midi au village Kauman est de la vue des visiteurs qui se bousculaient à l'autre, mais il n'y avait pas jamais de remue-ménage parmi les visiteurs. Une autre particularité est qu'il n'y a pas de concurrence entre les commerçants. Toutes les marchandises et tout croit en la fortune de chacun. Marché après-midi Ramadan Kauman n'est pas aussi grand que les autres marchés impromptus. Ce marché de l'après-midi situé sur la route Ahmad Dahlan, où seulement environ 90 mètres de l'intersection du bureau de poste Malioboro. La longue de couloir utilisée pour le marché après-midi Ramadan est seulement environ 80 mètres, avec 53 vendeurs qui vendent une variété de takjil. En plus de l'assortiment de nourriture et le prix abordable, pour faire du shopping alimentaire au marché après-midi Ramadan Kauman, il y a une suggestion, par exemple, pour les prix différents du marché des encas de 1000 à 2500 rupiah. Mais pour certains plats et des aliments lourds comme pépès de poisson, le prix offert dans le marché après-midi Ramadan Kauman n'est pas aussi pas cher que partout ailleurs. En plus d'acheter takjil et des plats de rupture, les visiteurs qui viennent ici est en vue de ngabuburit, à savoir attendre ou passer quand la rupture est arrivée. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain! Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en titre, le train présidentiel. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Les couleurs, un programme sur des informations actuelles. Plus récemment, le roi de Suède, Carl Gustaf VI et la reine Sylvia ont visité l'Indonésie. L'un de l'agenda de leur activité en Indonésie était rencontrer Ridwan Kamil, le maire de Bandung, et adjoint au maire de Bandung, Odette M. Daniel. En plus de la rencontre d'État avec Ridwan Kamil, le roi Carl Gustaf et la reine Sylvia ont rencontré Viking Fan Club, les supporters du club de football communautaire Persib Bandung. De Jakarta à Bandung, le roi de Suède et son entourage ont utilisé le train présidentiel. Ils occupent deux wagons de train touristique spécial nommés le train Bali et le train prioritaire. Le wagon Bali a une capacité de 20 personnes. L'intérieur est rempli avec des nuances de Bali. Non seulement l'avion présidentiel, il y a aussi un train présidentiel qui est devenu le mode de transport présidentiel pour exécuter les activités quotidiennes. Si l'avion présidentiel est exploité par la force aérienne, le train spécial présidentiel est exploité par Kereta Api Indonesia, société anonyme. Le train a été créé en 1967 comme train présidentiel qui est encore utilisé s'il y a un voyage d'État. Les trains spéciaux du président se composent de plusieurs séries que trois d'entre eux utilisent trois voitures de voyage, à savoir Bali, Toraja et Nusantara. Ces trois voitures sont le type le plus luxueux appartenant à Kereta Api Indonesia Société Anonyme et utilisé pour VVIP pendant le voyage. Les gardes présidentiels utilisent les chariots K1, soit classe exécutive. Les trains Bali, Toraja et Nusantara ont les salles assez luxueuses, une salle à manger, un minibar, une salle de réunion, une salle de karaoké, même la pirogue comme une salle de VVIP. Elles sont toutes équipées de télévision en circuit fermé. Si le wagon est rempli avec l'intérieur des nuances de Bali, le wagon Nusantara est conçu de façon à rassembler à une salle de réunion d'hôtel 5 étoiles avec des chaises et une table de plat. L'intérieur du compartiment est dominé par des images ethniques de Sabang à Merauke. De même, le chariot Toraja est rempli des nuances Toraja. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, c'est Jamie de la Voix d'Indonésie dans la bande entière. Voici le magazine de musique pour l'édition samedi avec moi, Yubi Surianto, qui va vous accompagner pendant 15 minutes. Vous pouvez écouter nos émissions par l'onde courte 902 kHz ou sur internet à l'adresse www.voi.co.id. Et nous vous invitons également à rejoindre la VOI sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter maintenant une chanteuse qui s'appelle Fatin avec sa première chanson intitulée Kekasihmu ou Ton amant. Bonne écoute.
Agar ku
Vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une première chanson intitulée Tonama, chantée par Fatin. Les paroles de la chanson sont efficient quelqu'un qui a donné son cœur à Dieu. La chanson Amant Tonama est un célibataire les yeux premier de Fatin Siddiqui Aloubis, une chanteuse née à Jakarta le 30 juillet 1996. Fatin Siddiqui, ou plus souvent appelée Fatin, a commencé sa carrière dans la scène musicale indonésienne par un spectacle de talent dans l'un des télévisions privées nationales en 2012. Non seulement est-elle le seul participant qui a gardé, Fatin a mis toute sa capacité à pouvoir enfin gagner la course. Ses amis, on écoute la chanson de Fatin suivante intitulée La lumière dans le ciel.
Terima kasih.
C'était une chanson de Fatine intitulée « La lumière dans le ciel » qui est devenue l'un de la bande originale au soundtrack du film indonésien intitulé « 99 lumières dans le ciel en Europe ». Fatine a publié quelques chansons religieuses en plus des deux chansons que nous avons écoutées avant. Il y a aussi d'autres titres tels que « Proud of you, Muslim » et « Oh mon Dieu ». En tant que chanteur, il a été maintenu et pas seulement le monde de la musique qu'il a élaboré, mais Fatine a aussi cultivé le mode musulman. Fatine a écrit une fois un livre sur le hijab. Chaque Ramadan, Fatine a effectué avec diligence des chants religieux dans la télévision et d'autres événements. En 2017 également, Fatine a chanté d'une chanson religieuse qui est familière aux oreilles du peuple de l'Indonésie, à savoir « Quand les mains et le pied dit », précédemment popularisé par le défunt Krishya. Chers auditeurs, avant nous terminons notre programme musical ce soir, on écoute deux dernières chansons intitulées « Quand les mains et le pied dit » et « Proud of you, Muslim ». Bonne écoute et au revoir.
Ah.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et de divertissement.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.